Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain Mekena.
Et salut à tous. Le mois d'avril se poursuit. Monsieur Mekena, mes hommages.
Bonjour Benoît. Oui, ça va très bien toi-même.
Bon, absolument, absolument. Là, je vais m'excuser cette semaine pour avoir parlé de Porsche inabordable pendant deux semaines. Je me suis rattrapé un peu avec la 500E la semaine passée, mais cette semaine, j'ai eu une belle surprise. J'ai essayé tout ce qu'il y a de plus basic. Ah. J'ai essayé une Jetta manuelle. T'as besoin d'une clé pour le partir. Il y a un minimum d'électronique, puis ça se vend à 26 000. Ça existe encore. Et, Seigneur, j'ai toujours aimé Evoque, puis j'aime encore ça.
Mais c'était la vocation de base de la Jetta.
Bonne petite machine. Mm-hmm. Franchement, on va en parler. Fait que j'ai dit, bon, je vais me rattraper, m'abaisser dans mon barème de prix, là, parce que les gens vont dire, hey, Charlotte, arrête d'essayer des chars pas abordables.
Des chars 250
000. Alors, on va faire ça. Mm-hmm. De ton côté, toi, t'es dans l'électrique cette semaine.
L'électrique, en fait, je complète une espèce de trio d'essais de Nissan, là, mais j'ai essayé le Nissan Ariya que j'ai revisité, en fait. Je l'avais essayé cet hiver.
Ouais.
J'étais pas satisfait de l'essai que j'avais fait, donc je l'ai réessayé pour me convaincre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient récemment, parce qu'avec les changements à l'aide à l'achat des gouvernements, les gens tout d'un coup ont plus d'intérêt à acheter une voiture électrique maintenant. Et regarde évidemment les VUS 4 roues motrices. Et dans ce créneau-là, on regarde rapidement modèle Y, Volkswagen ID4, des choses comme ça. Mais on oublie que l'Ariya est là.
Exact.
Donc dans ce contexte-là, je vais le réessayer.
Ben, au-dessus, je vais pouvoir confirmer ou infirmer. Ben, je m'en vais essayer cette semaine l'Ariya. Ils appellent ça Tour of Europe in Ontario. Parce qu'on s'en va faire des villes. On va à London, Copenhagen, Paris, parce que il y a un Paris en Ontario, il y a un Copenhagen, il y a un Cambridge.
Que c'est une
London.
Recette pour une déception à
ben
Rafale.
Là, écoute,
c'est jamais je, la bonne
oui,
ville.
Évidemment, mais là, j'ai hâte de voir. C'est une journée. Mais comme j'ai pas beaucoup conduit l'Ariya, j'ai dit quand même, on va profiter de l'occasion, on va aller faire un tour. Fait que la semaine prochaine, on pourra revenir là-dessus puis s'en parler. Comme invité, on va avoir Gino Hérosier, qui est porte-parole de la Société d'assurance automobile du Québec. Parce qu'on a ouvert des centres en présentiel de sa clique. La semaine, ça fait deux semaines maintenant. Je voulais faire un petit bilan. Comment ça a été, tout ça? Parce que là, évidemment, c'est la grosse période de déremisage. Oui. Là, les gens sortent leur véhicule de l'hibernation et de beaucoup de gens qui ont allé à plaquer puis tout ça. Puis en ligne, là, même lui m'a avoué au téléphone là, que c'est compliqué.
Ah oui?
Alors, quand quelqu'un l'a sac,
ça a bien été. Je l'ai fait l'autre jour. Ça a pris 10 minutes. Okay. J'avais mon petit papier.
Ouais, tout, mais t'animes pas une tasse de tech, toi?
Là, c'est quand même bien, juste un site web. Mais oui, je peux comprendre qu'il y a des causes à se compliquer.
Tu sais, les gens pas habitués, là, surtout quand on te demande des numéros d'impôts.
Ben, c'est que la création
quoi,
du compte est vraiment compliquée.
Bon, ouais. Alors là, on dit qu'on veut simplifier ça, passer plus de monde, diminuer le taux de frustration de la population. On va en parler avec Gino Desrosiers tantôt. Oui. Mais évidemment, comme à chaque semaine, je te laisse décoller avec tes nouvelles de la semaine.
On va parler de table pliante aujourd'hui, Benoît.
Ah, ben, on s'en va en pique-nique?
Ben, pourquoi pas?
Ben oui, why not?
Ben, je veux dire, on en voit aussi dans les avions, les fameuses tables qui permettent de déposer un cabaret, un verre, un ordinateur portable ou plein d'autres choses. Dans un équilibre toujours un peu précaire dans les avions, en tout cas. Voilà, t'il pas que Ford songe à développer le même genre de tablette repliable qui s'installerait à l'avant de ses véhicules, entre le siège du conducteur et du passager? C'est le contenu, en fait, d'une demande de brevet faite par Ford auprès du Bureau américain des brevets, l'USPTO, que l'USPTO vient de publier. La demande en question prend la forme d'une console centrale comme celle qu'on trouve entre les sièges avant d'à peu près n'importe quel véhicule, y compris les camionnettes F-150 de Ford. On trouve dans ce concept-là deux porte-gobelets à l'avant, un espace de rangement en plein centre et deux porte-gobelets à l'arrière pour les occupants de la banquette. Et sur la portion supérieure du rangement central, on trouve un appui-coude qui peut être déplié des deux côtés pour créer une espèce de table qui déborderait à la fois du côté conducteur et du côté passager. On n'a pas mentionné par hasard le F-150 dans cette histoire-là. Ford semble avoir réalisé que bien des propriétaires d'une camionnette étaient des travailleurs ou des gens, en tout cas, qui passaient beaucoup de temps à bord de leur véhicule pour remplir de la paperasse.
C'est sûr que les gens de, qui ont des chantiers...
Ben voilà,
sûr,
en construction, c'est un
cas c'est un bureau de travail aussi, en quelque part. Là.
Ben, c'est ça. Puis déjà, le F-150 actuel, on peut rabattre le levier de transmission pour faire la place à une grande surface de travail. Donc, l'idée fait du chemin, disons ça comme ça. Et on peut facilement imaginer un F-150 de prochaine génération qui serait soit électrique ou essence, qui n'aurait pas de levier de transmission dans la console et qui aurait donc plus de place disponible pour installer un accessoire comme une table pliante comme celle-là. On peut aussi imaginer que Ford pourrait mousser sa technologie d'aide avancée à la conduite Blue Cruise en suggérant qu'il serait possible de laisser le véhicule se conduire par lui-même sur certaines distances, ou en tout cas certains endroits, et ce qui permettrait au conducteur de faire autre chose sur sa table pliante alors qu'il est en déplacement. Je dis ça, puis ça sonne un peu étrange, mais c'est ce que les constructeurs essaient de faire en fait en ce moment, notamment là où c'est permis, pas partout, mais dans certains États américains puis en Europe. C'est-à-dire, on peut effectivement lire le journal en laissant sa voiture conduire. Ça s'en vient. Je dis pas que c'est une bonne idée,
non.
Mais c'est ce qui est en train d'être développé. Et
non,
ça serait
je vois
un
plus
exemple
ça comme utilisation quand le véhicule est arrêté. D'ailleurs, on a eu toutes sortes d'études qui ont été faites.
Ça, oui, ça, c'est clair.
Tu sais, chez Ford, rappelle-toi, on peut rabattre le levier de vitesse, faire un air de travail.
Voilà.
Il y a même eu des études qui ont été faites où on... le volant se pliait de l'autre côté pour faire une surface plane. En tout cas, il y a eu toutes sortes d'essais. Là, la table pliante, là, c'est comme...
OK. Ben, y a Louis de Funès, en tant que gendarme, qui est d'enlever le volant et de le passer au passager pour que lui prenne le contrôle. Mais on n'est pas encore rendu là. Mais cette notion d'autonomie ou en tout cas de temps libre à l'avant fait du chemin, définitivement. Et ça, c'est une belle application. J'ai hâte de voir, parce que c'est un accessoire qui pourrait être le fun, effectivement, au moins à l'arrêt.
Absolument. Ouais. Autre nouvelle.
Il y a peut-être une raison qu'on insoupçonnée, je veux dire comme ça, derrière la pénurie de véhicules électriques. Parce que, tu sais, on commence à avoir un portrait assez clair de la situation dans le secteur, là, disons, encore très émergent, parce que c'est tout nouveau, là, des batteries pour véhicules électriques. Et le constat n'est peut-être pas celui qu'on pensait. On sait déjà, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, que la planète a suffisamment de matériaux pour électrifier l'ensemble du transport et même plus. Là, si on veut décarboner même le secteur énergétique, on a du lithium, du fer, de l'aluminium, n'importe quoi. On n'est pas en manque de ressources. Le problème serait du côté de la main-d'œuvre, en fait. Il manque de travailleurs qualifiés pour assembler les batteries.
Oui, ça, c'est vrai que c'est un problème.
Ça, c'est
d'ailleurs,
un gros problème.
Je pense que l'usine de Nordvolt, quand on avait interviewé les gens, la première préoccupation, c'était de trouver, parce que là,
d'amener
on parle de créer quoi, là, 3000 emplois ou une affaire comme ça. Puis la plupart des emplois sont des emplois qualifiés, c'est-à-dire de gens qui doivent
une formation
avoir...
spécifique.
Oui, absolument. Absolument.
Et d'ailleurs, c'est ça, le département américain du travail et le département de l'énergie ont annoncé, il n'y a pas longtemps, là, ça fait une dizaine de jours, un nouveau programme axé sur la formation des travailleurs spécialisés dans la fabrication de batteries. C'est un programme qui s'ajoute à une stratégie qui dure sur plusieurs années. Là, on en parle depuis 2020 et ça va jusqu'en 2027-28, qui s'appelle la Battery Workforce Initiative. Mon anglais est impeccable. C'est une initiative qui vise à accélérer la formation de travailleurs pour combler les postes ouverts. Et là, prenez des notes. Il y a eu 400 nouvelles usines annoncées qui vont être construites aux États-Unis de fabrication de batteries.
400?
En 3 ans seulement.
400?
T'sais, nous, on s'énerve avec Nordvolt. Là, eux, ils en ont 400 à construire.
Imagine.
au cours des prochaines années.
C'est de la batterie, ça, monsieur?
Puis c'est du travailleur. Donc, c'est un problème assez grave. D'ailleurs, il y a un sondage qui a été mené dans l'industrie aux États-Unis qui révèle qu'environ la moitié des travailleurs actuels qui touchent de près ou de loin là, au secteur des batteries pour véhicules électriques qui n'ont pas les compétences requises pour assembler des batteries de prochaine génération. Donc, clairement, là, on a un problème. Un autre problème, et celui-là est assez complexe, c'est qu'il manque de travailleurs assez expérimentés dans la fabrication de batteries pour encadrer les nouveaux venus. Donc, il y a une espèce de deuxième niveau d'expertise.
Donc, il manque de mentors.
Fait qu'il manque de monde, mais il manque de monde pour former le monde.
Ouais,
c'est vraiment
quelque
chose. Et en plus, ce qu'on se rend compte, c'est que les conditions d'embauche dans les usines sont assez peu attrayantes et les gens quittent rapidement vers un emploi dans un autre secteur.
Oui, puis tout est à
donc,
faire dans ce secteur-là.
Ben, voilà.
C'est-à-dire que puis je sais que du côté des gens qui vont faire l'entretien, la réparation de ces véhicules-là, il y a beaucoup de résistance.
Mm-hmm.
Parce que faire de la formation, ça veut dire envoyer tes employés pendant une semaine,
c'est des heures
deux
de travail,
semaines,
manqué,
ou
ben
trois
oui.
soirs par semaine pendant plusieurs mois. Ils sont pas au travail pendant ce temps-là. On n'a pas les moyens de perdre des employés pour de la formation, parce que si lui est parti ou elle est partie, on doit remplacer la personne qui n'est plus là.
Voilà.
On paye deux salaires à ce moment-là. Et je sais, pour avoir parlé avec des gens dans l'industrie, on dit non. Je vais m'en former un, là. M'en avoir un,
commençons
mais il
n'y
en aura
ben
pas
oui.
deux.
Voilà.
Mais c'est parce que si on va au rythme où on veut aller, dans la production de véhicules électriques, l'arrivée des modèles sur le marché, un, ça sera pas assez. Hein? Non, on s'entend tout le monde que ça va en prendre beaucoup plus que ça. Et la formation, c'est long parce que là, c'est nouveau. Bon, c'est vrai, il y a des freins sur un véhicule électrique. Il y a des pneus sur un véhicule électrique. Il y a plusieurs éléments qu'on retrouve aussi sur des modèles à essence. Mais tout ce qui est batterie, tout ce qui est électrique, il y a peu de choses qui sont faites encore. Tu sais, il n'y a aucun programme gouvernemental, que ce soit au Canada, anglais ou au Québec, qui existe en ce moment, qui est appliqué.
Exact.
On a recours à des formateurs extérieurs pour former les gens. Mais évidemment, ce n'est pas une formation en profondeur. On apprend l'essentiel pour que ces gens-là puissent retourner sur le marché et en faire plus. Mais est-ce qu'on aurait besoin, c'est de dire, parce que j'ai eu l'occasion, moi, de parler dans un congrès de des comités paritaires automobiles à des délégués du ministère de l'Éducation. Et ce qu'on était plusieurs à souligner, c'est de dire, écoutez, on a besoin d'une formation au minimum collégiale, d'une technique de 3 ans, parce que les notions qu'on doit connaître maintenant vont bien au-delà des notions mécaniques. On doit avoir des spécialistes d'électronique,
ben oui,
des spécialistes d'électrique. Et ça, à mon avis, ça demande une formation. Et on doit payer ces gens-là aussi.
Exact.
Ça, c'est l'autre affaire. Parce que souvent, on dit, oh ouais, moi, te former, mais t'es au même salaire que les autres. Puis ça demande 2-3 fois plus de formation. Fait que les gens vont dire, ben, laisse faire. Là.
À quoi bon?
Moi, ben encore oui, changer de l'huile. Puis quand t'auras un vrai salaire, tu m'en reparleras.
Voilà.
Mais tout ça, là, puis là, ben, on procrastine en ce moment. Là. On reporte. Mais pendant ce temps-là, le nombre de véhicules sur les routes augmente. À un moment donné, on va arriver à un goulot. Oups, ça passera plus. Là.
Ouais, ça va être difficile, effectivement.
C'est ça.
Et c'est un peu ce que le gouvernement américain essaie de régler avec son programme. Il n'y a pas de directive claire, il n'y a pas de montant d'argent, il n'y a pas de cible ou rien. On va juste alerter les entreprises dans le grand secteur du transport, disons ça comme ça, à être au courant de la situation. Mais c'est sûr que ça devrait inspirer le gouvernement du Québec et du Canada parce que on va avoir les mêmes problèmes chez nous, c'est clair. Surtout quand Northvolt va ouvrir et quand les autres usines en Ontario vont ouvrir et puis quand Honda va finir par annoncer son propre programme qui devrait être très ambitieux aussi, peut-être au Québec et en Ontario, mais bref, c'est un bel exemple d'initiative gouvernementale, mais
ouais,
pour l'instant, elle est aux États-Unis seulement. Donc,
exact, exact. Puis, je vais rester dans le même sujet que toi. Tu sais, on voit là, en ce moment, tu nous as parlé du ralentissement.
Mm-hmm.
Là, ce qui manque en ce moment sur le marché, c'est des véhicules électriques abordables. Pas trop compliqués, que les gens peuvent acheter.
Ouais.
Tu sais, je dirais pas ça méchamment, là, mais on n'a pas besoin d'un autre pick-up électrique à 100 000 $ sur le marché en ce moment. Tu sais, les gens le trouvent bien beau, là, mais personne ne l'achète. Tu sais, on a besoin de véhicules entre 20 et 30 000 $ dans l'électrique. Là, on essaie fort de retenir la Chine de venir envahir le marché ici. Mais ce qui va arriver, c'est que si on laisse la porte ouverte, quelqu'un va arriver à un moment donné avec le véhicule qu'il faut. Tu sais, rappelle-toi la crise du pétrole.
Mm-hmm.
Les Américains ont été pris de court. On a tenté tant bien que mal de faire des petits véhicules, mais on n'avait jamais fait. On ne savait pas comment faire ça. Ce qu'on a fait était horrible. On s'entend, là, tous ceux qui ont eu un Pinto, un Bobcat, un Vega, un Astre ou autre cochonnerie du genre. Là. Ah ouais, ben moi, j'étais jeune, mais je me rappelle de ces véhicules-là. Là. Moi, j'avais 8-10 ans là, quand c'est arrivé, parce que moi, en 74, j'avais 10 ans. En 73, j'avais 9 ans. Et on a vu ces véhicules-là arriver. Là, puis c'était une catastrophe. Mais c'est au même moment que sont arrivés les Corolla, les Honda Civic.
Les Japonais, ben oui.
Et eux, ça fonctionnait. Ça marchait à l'eau claire. Ça brisait pas. Puis les gens disent, ah! Mais il va arriver la même chose dans l'électrique. Si on ne réagit pas domestiquement, il y a d'autres mondes qui vont trouver l'ouverture, qui vont arriver, puis qui vont venir, eux, vendre des véhicules.
Ben, j'ai eu une crainte cette semaine parce que le gouvernement américain, Janet Yellen, est allée en Chine, puis elle a demandé d'arrêter la surproduction de batteries parce que ça fait. J'ai l'impression qu'il va y avoir une grosse résistance aux véhicules électriques chinois bon marché en Amérique du Nord, puis le
problème,
consommateur va être perdant.
C'est vrai, mais le problème en ce moment, c'est que c'est la Chine qui a toutes les cartes dans ses mains.
Ah, ça, c'est clair.
La Chine a beaucoup de lithium et ce qu'ils ont pas, ils ont la mainmise dessus et les vendent à d'autres. C'est pas pour rien qu'une compagnie comme Ford s'est associée à CATL, qui est une grande compagnie chinoise, parce qu'ils savaient très bien qu'ils seraient pas capables eux-mêmes, du côté de Ford, d'avoir les réserves dont ils ont besoin en lithium.
Ben oui.
On a aussi développé d'autres batteries comme au sodium qui marchent déjà en Chine, qui coûtent beaucoup moins cher qu'une batterie lithium-ion, peu importe le modèle, que ce soit des LFP, que ce soit des modèles plus évolués. Alors, eux doivent en quelque part se dire, je vais attendre le bon moment. Là, le marché chinois est, je ne veux pas dire inondé, mais bien fourni. Et on est capable maintenant, des compagnies comme BID, de dire, bon, ben BID arrive en Europe. Là. BID sont en train de songer très sérieusement à construire une usine au Mexique. T'étais aux portes de l'Amérique du Nord. Là. Puis là, ils se gardent bien. Ils disent, non, ils vont prendre de tout chez eux. Quand ils vont avoir tout le monde à la gorge, là, tassé d'un coin, là, puis ils vont dire, ben regardez, nous autres, on va vous fournir, là, mais vous allez nous laisser vendre des autos chez vous. Vous allez voir. Là, c'est une question de temps. Là. On va les égorger d'un coin. Puis ça va arriver à un moment donné ou un autre qu'on va être pris avec... on va être mis devant le fait accompli.
Ben, on voit les limites avec le modèle 2 de Tesla qui n'arriverait pas. Là, ça ouvre une porte pour une compagnie comme BYD parce qu'en plus, BYD, on le sait, ça appartient en bonne partie à Warren Buffett.
Exact.
Donc, il y a des investisseurs américains. Ils ont une filiale, ils font des autobus électriques déjà en Amérique du Nord. Donc, ils
connaissent
le marché. Là.
Et eux, là, sont capables d'arriver avec une voiture électrique entre 25 et 30 000.
Ben oui.
Et ça, c'est clair, que ce soit chinois, turc ou n'importe quelle autre nationalité, si le modèle est joli, qui est efficace, qui fait un job, les gens vont se garrocher dessus.
Je pense qu'ils en vendent une au Mexique, d'ailleurs, depuis
oui.
pas très longtemps.
Oui, oui.
C'est 29 000 $
On tente le terrain, tu vas voir.
Mm-hmm.
Tu vas voir. Le temps va venir à un moment donné. Ils sont très patients. Mais le temps va venir, puis on va les voir apparaître chez nous.
Voilà,
ça résume un petit peu nos nouvelles. Nous, on va à la pause et on revient avec Gino Desrosiers.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, si vous avez eu un véhicule enregistré, déremisé, faire plaquer, comme on dit chez nous, si vous avez utilisé la plateforme Saclic, vous le savez, là, il y a eu des ratés au début, ça a été un peu compliqué. Disons que ça a été difficilement orchestré là, par les gens de Québec. Mais on a tenté, il y a pas grand temps, là, quelques semaines à peine, de voir à la situation pour essayer d'améliorer ça. On a ouvert une quinzaine de centres au Québec en présentiel pour justement... tenter de faciliter la tâche. Et pour parler de ça avec nous, on a le porte-parole de la Société de l'assurance automobile du Québec avec nous, M. Gino Desrosiers. M. Desrosiers, bonjour.
Bonjour.
Bon, parlez-nous d'abord, pourquoi avoir mis sur pied cette expérience-là? Comment on a décidé de faire ça à la SAC? Et parlez-nous de ce que c'était, comment ça a fonctionné, et si on va répéter ça, ou peut-être laisser certains centres ouverts pour des opérations comme celle-là.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que le printemps, historiquement, à la SAC, c'est une grosse période, là, si on tient compte des mois, surtout avril, mai et juin. Puis c'est beaucoup en lien avec les transactions de déremisage de véhicules
oui.
et de transfert de propriété. Il y a beaucoup de gens là, qui vont soit vendre ou acheter des véhicules au printemps.
Mm-hmm.
Il y a beaucoup de ces transactions-là qui se font déjà en ligne. Vous aviez parlé de problématiques au printemps passé, mais il y a quand même sur les 371 000 véhicules qui ont été déremisés dans le cours de l'année passée. Il y en a quand même au-delà de 206 000 qui se sont faits en ligne.
Okay.
Donc ça, mais il y a encore une certaine partie de la clientèle qui sont peut-être soit moins habiles avec les nouvelles technologies, soit un peu plus craintif par rapport au fait de le faire pour une première fois et de s'assurer que son véhicule soit vraiment en droit de circuler. Donc, on offrait une journée spéciale de blitz pour accompagner les gens dans la transaction en ligne du déremisage du véhicule et aussi pour ceux qui n'avaient pas encore créé leur compte Saclic, de les aider à créer leur compte. Et comme on le fait en personne, on a besoin de moins de pièces d'identité ou de différentes pièces qu'il fallait fournir. Donc, ça facilite l'identification de le faire en personne.
Ouais, ben c'était un des premiers, une des premières critiques, c'est que c'est pas tout le monde qui avait sous la main les documents nécessaires pour créer son compte initialement sur sa clique. Qu'est-ce que ça prend exactement? Juste rapidement, si on veut aider les gens justement qui pensent à le faire, là, qu'est-ce que ça prend? Je pense que ça prend un relevé d'impôts, ça se peut-tu?
Oui, ben pour créer son compte, faut se créer un identifiant au service d'authentification gouvernementale du gouvernement. Cet identifiant-là va nous servir par la suite quand d'autres ministères et organismes vont avoir des dossiers en ligne. Donc, c'est une petite correction, c'est pas fait à la SAC, c'est fait au ministère de la Cybersécurité et du Numérique. C'est comme la clé pour accéder à notre dossier. Donc, ça prend numéro de permis de conduire, carte d'assurance maladie, assurance sociale, et puis ça prend le numéro de l'avis de cotisation d'une des deux dernières années imposables.
C'est ça. Mais c'est
pas tout le monde qui a ça facilement sous la main.
Ouais, c'est ça.
Donc, quand on se présente en centre de service, puis qu'on fait l'authentification en personne, ben, si vous n'avez pas votre avis de cotisation, on va vous identifier votre permis de conduire, le fait qu'on vous ait en face de nous, puis avec une autre pièce d'identité au besoin.
Bon, dites-nous, lorsque vous avez ouvert ce samedi-là une quinzaine de centres, comment ça s'est déroulé? Est-ce que ça a été populaire? Est-ce que les gens sont allés? Est-ce qu'il y a eu une bonne réponse du public?
Ça s'est bien déroulé. On a servi à, je dirais, environ 700 personnes. Il y a peut-être là un peu plus de 200 personnes qui ont été là pour faire des transactions d'accompagnement. On a fait d'autres types de transactions. À Drummondville, entre autres, on en avait profité pour faire un blitz aussi d'examen de cyclomoteur jumelé à une activité de sensibilisation au partage de la route pour ces jeunes nouveaux usagers de la route. Donc,
okay.
En tout et partout, là, on a peut-être là, servi un peu plus de 700 clients dans la journée.
Ah ben quand même. Donc, ça valait la peine pour certains niveaux. Là, j'imagine qu'il y a une question générationnelle aussi là-dedans. Là. Moi, je me situe dans ceux qui ont toujours été dans les bureaux de la SAC pour faire des renouvellements, des changements, tout ça. La transition numérique a été difficile. Est-ce qu'on voit un profil type de gens, par exemple, qui vont se présenter là? Est-ce qu'on est plus âgé? Est-ce que c'est des boomers? Ou si on retrouve un peu de tout là, dans ça?
Ça, je dirais que c'est principalement des gens qui sont moins habitués. C'est sûrement une question d'âge un peu, mais c'est des gens qui sont moins habitués okay. à faire des transactions en ligne. Ça fait partie de la vie de plusieurs personnes. Entre autres, là, dans les institutions bancaires, ça fait des années qu'on peut faire affaire avec, par exemple, pour prendre l'exemple de Jordan, avec Accepté, mais il y a encore des gens qui se présentent au comptoir chez Desjardins. Donc, il y a des gens pour qui c'est naturel, d'autres pour qui c'est un peu plus... Donc, c'est moins naturel. Donc, on essaie de leur faire gagner en autonomie pour leur permettre après de pouvoir, si on reprend l'exemple du déremisage en fin de semaine, ben, si on a appris à déremiser, on va être capable de remiser à l'automne, dans le confort de sa maison, et de déremiser au printemps prochain sans avoir besoin d'aide de personne, ce qui va libérer de la place en centre de service pour les gens qui ont vraiment besoin, parce qu'il y a encore des transactions qui doivent vraiment se faire en centre de service. Donc, ça va libérer... Ça libère des plages et ça permet de répartir la chalandage.
C'est ce que j'allais vous demander, parce que j'ai utilisé sa clique pour déremiser mon véhicule et ça s'est très bien passé. J'ai rien à dire de ce côté-là, mais j'imagine qu'il y a des transactions et des choses qu'on ne peut pas faire sur le site qu'il faut aller faire en succursale.
Entre autres, le déremisage, présentement, c'est réservé aux véhicules de promenade qui n'ont pas besoin d'une vérification mécanique, donc qui ont été remisés pour 12 mois et moins.
Mm-hmm.
Mais on va ajouter des services là, sur... Pour le déremisage, bientôt, on va pouvoir déremiser... Je me trompe avec la transfert de propriété qui est réservé aux véhicules de promenade. On peut déremiser une moto aussi. Pour les transferts de propriété, on va ajouter bientôt d'autres transactions. C'est sûr que l'échange de permis de conduire, quand on a un permis étranger, les examens de conduite, certaines transactions où... Il y a des vérifications mécaniques de liées au véhicule doivent encore se faire en centre de service.
Naturellement, ben oui, effectivement.
Bon, là, on regarde parce que les services ont évolué au niveau de sa clique pour évidemment tout ce qui s'appelle en ligne. Comment vous voyez l'évolution de ce service-là, disons, dans la prochaine année ou les trois prochaines années? Est-ce qu'on va graduellement amener tout en ligne ou il y a des choses qui, de toute façon, devront se faire dans des points de service?
Ben, comme je mentionnais, les choses qu'on va devoir se faire présentement, là, évaluer un conducteur, ça se fait encore en point de service.
Oui, évidemment.
Mais effectivement, mais le but est pas, de, je dirais, d'offrir des services exclusivement en ligne pour éviter aux gens de se présenter, c'est d'offrir la possibilité aux gens d'avoir un choix dans. Et le fait maintenant avec Satlic, ben, nos services sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc ça donne de la souplesse à la clientèle. Mais effectivement, on va tenter d'améliorer en offrant d'autres services là, au fur et à mesure que le système va évoluer, puis qu'on va être en mesure de faire passer d'autres services au numérique.
OK. Et en terminant, est-ce que, bon, la journée qu'on a fait, qui a été quand même un bon test, est-ce qu'on va refaire de temps en temps des journées comme ça dans les centres pour un peu délester ou essayer de vider un trop-plein au niveau de ce qu'on pourrait trouver en ligne?
Ben, comme je vous disais tout à l'heure, comme avril et mai sont ouais. des gros mois, on prévoit organiser quelque chose qui va ressembler à ça au début du mois de mai.
Okay.
Donc là, on devrait être capable là, d'en faire une autre, donc d'avoir quelques personnes de plus à accompagner qui vont pouvoir gagner en autonomie par la suite.
Bon, ben écoutez, merci de votre temps, M. Desrosiers, c'était très gentil. Puis on voit qu'il y a un effort de fait, donc c'est le fun. Puis le service Satlic, là, Alain, qui est bon, qui l'utilise.
Ben, c'est pas super sensible, mais c'était des services légers que j'utilisais, je veux dire comme
exact,
ça.
Exact, mais le service a pris du mieux ouais. depuis un an. Ben merci beaucoup. Puis on se tient au courant quand il y a d'autres bonnes nouvelles, vous nous appelez.
C'est parfait.
Merci beaucoup, M. Desrosiers. Bon. Alors, bon c'est bon à monsieur. Vous. Merci. C'est à M. Gino Desrosiers, qui est porte-parole de la Société de l'assurance automobile du Québec, qui nous parlait évidemment des centres qu'on a ouverts. Pour certaines opérations de déremisage qui ont été fort pratiques. Nous, on va à la pause et on revient avec nos essais routiers.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, c'est le moment de nos essais routiers, mais juste avant, pour nous écouter, c'est très facile. Vous allez sur le 98.5fm.ca dans la section « Balado ». Et vous allez retrouver Ça tient la route.
Ouais.
On met chaque jeudi à peu près, on met les émissions en ligne que vous puissiez les écouter. Si vous voulez nous écouter à la radio, ben c'est le dimanche à 18h en général, toujours au 98.5 FM. Et on est un petit peu partout en province. Si vous êtes en Outaouais, en Estrie, dans la région de Québec, on est au Saguenay. Consultez le site de Cogeco près de chez vous.
Voilà.
Et vous allez trouver les horaires de l'émission. Aussi, vous pouvez aussi aller sur les plateformes de balado. On est là, partout. Et sur annuelauto.ca, on fait une mise à jour. Vous allez voir sur la page d'accueil, il y a balado. Et la dernière est toujours la première en haut de la liste. Alors, vous allez vous y retrouver facilement.
La première et la dernière.
La première et la dernière, absolument. Voilà. Tiens, cette semaine, je fais amende honorable.
Oh.
Je me présente dans un véhicule que j'aime bien, qui ne coûte pas cher, qui est encore intéressant. Et ma foi, j'ai eu une belle semaine au volant.
Une des rares manuelles encore sur le marché.
Une des rares manuelles, la Jetta. Bon, vous pouvez avoir aussi une boîte automatique. Mais il y a la boîte manuelle qui existe. Puis toi, Alain, t'es allé dans un modèle électrique qu'on voit ouais. pas beaucoup sur la route, honnêtement.
Non, j'en ai
pas vu gros des Nissan Ariya.
Ça fait partie de la réflexion, effectivement.
Oui, t'as-tu trouvé réponse à ta réflexion?
Ben, j'ai un peu... je me disais, comment je peux résumer ça en une phrase? Je me dis, ben, c'est peut-être un modèle à mettre sur votre liste si vous magasinez un véhicule électrique en ce moment et que vous magasinez ce que tout le monde veut acheter, un VUS à quatre roues motrices qui est pas trop cher. On en a parlé, hein, ça tient la route de l'Ariya avant Noël, au mois de novembre. Donc, ouais. Ça fait 6 mois. Et entre-temps, ce qui s'est passé, qui vaut la peine d'être mentionné, c'est que Nissan Canada a confirmé le prix de détail pour l'édition 2024, qui lui permet d'être, dans toutes ses versions, d'être compatible ou éligible, en fait, aux deux aides à l'achat gouvernementales, la fédérale et la provinciale. Mm-hmm. Et comme on sait, évidemment, que Québec s'apprête à réduire son aide dès l'an prochain, ça veut dire qu'il vous reste... un petit peu moins de 8 mois là, pour essayer un Ariya et décider si c'est le genre de véhicule électrique qu'il vous faut. Si vous hésitez actuellement entre des modèles comme, je donne ça au hasard, mais le modèle Y de Tesla et le Volkswagen ID4, qui sont un peu les deux extrêmes du spectre des petits VUS dans ce genre-là, l'Ariya peut valoir le coup d'œil lui aussi. Il est livré avec un rouage intégral que Nissan appelle son E4 Force, parce que pourquoi pas, hein, ça se prononce très bien. Et ça le rend évidemment un peu plus dynamique, surtout au décollage, parce que quatre roues motrices, ça donne un meilleur appui quand on utilise le couple de ces véhicules-là. Alors, on a un groupe propulseur, d'ailleurs, qui génère une puissance et un couple de 389 chevaux. Et son autonomie, dans le meilleur des cas, peut atteindre 465 km, ce qui est au-dessus de la moyenne dans le marché de ce marché.
Oui, c'est pas mal, effectivement.
Pleine charge, dans mon cas, le mieux que j'ai obtenu, peut-être qu'il faisait pas assez chaud, mais je suis arrivé à 395 km. Donc, c'est pas tout à fait 400, mais je vais dire des vrais kilomètres, si vous voulez, dans le sens où c'est pas, on n'arrive pas à 250, puis whoop, tout d'un coup, j'ai plus de batterie. C'est quand même pas mal, là. 400 km à peu près pour une charge, c'est tout à fait correct. On l'a déjà dit, Nissan a pris du retard ces dernières années pour plein de raisons là, qui n'ont rien à voir avec sa capacité à innover, disons ça comme ça. Et malheureusement, c'est en bonne partie ce qui fait que l'Ariya, même s'il mérite le coup d'œil, n'est pas exactement le VUS électrique le plus facile à recommander. C'est un véhicule qui devait être mis en marché initialement il y a quoi, 3 ou 4 ans. Ça aurait été un beau succès si c'était arrivé pour vrai.
Moi, j'avais vu ce modèle-là au salon de l'auto de Los Angeles en 2019.
Ben voilà.
Et ça devait être un modèle 2020.
Il est arrivé en retard, ben, il a passé la pandémie.
C'est ce qui s'est passé en pandémie. Oui,
exactement. Là, on reste, évidemment, vu le délai, on reste un peu sur notre appétit parce que pendant ce temps-là, le reste du monde a continué à tourner. Le système e-Step, qui a changé de nom, il s'appelait e-Pédale pendant un bout de temps, là, c'est rendu e-Step de Nissan, qui permet de plus ou moins conduire une pédale, là, est une belle illustration de cette hésitation, de ce petit recul pris par Nissan. En principe, il permet de conduire et même. Il devrait permettre de conduire et même d'immobiliser le véhicule sans avoir utilisé le pédale de frein, mais en pratique, c'est faux. Le véhicule ne s'immobilise jamais par lui-même. Évidemment, on lâche l'accélérateur, le véhicule ralentit, mais il revient à l'équivalent du régime moteur de moteur à essence. Donc, il continue à se déplacer à peut-être 5 km/h, quelque chose comme ça. Donc, il faut freiner. Ce système-là, e-Step, n'est pas la même chose non plus que le mode de conduite B. Quand on passe les leviers de transmission, on passe à PRND et les véhicules électriques et certains véhicules d'essence aussi ont ce mode B là, qui est un mode plus écono là, qui semble, en tout cas dans le cas du Ariya, axé sur la réduction de la consommation d'énergie. De son côté, le système e-Step, qui est une autre façon de conduire avec moins d'énervement, est plutôt axé sur une conduite qui force le véhicule à ralentir plus vite, tout simplement. C'est un peu mêlant parce qu'il y a aussi le mode éco, le mode de comportement de conduite éco. Et donc, on a trois affaires qui sont un peu la même chose. Et pour avoir l'autonomie la plus prolongée possible, ben, il faut tout activer. La conduite en mode B avec le e-Step et le mode de conduite éco. Alors qu'il devrait avoir un seul bouton, tout simplement, pour faire ça, qui m'apparaîtrait le gros bon sens.
Exact.
Et à part le mode éco, ben, il y a le mode normal, et vous le savez, c'est assez typique. Il y a aussi le mode sport, qui lui, évidemment, est à l'autre bout du spectre en termes de comportement. On retire une leçon durable de tout ça. Les véhicules électriques là, qui sont conçus comme s'ils étaient des véhicules à essence ne sont pas les meilleurs véhicules dans leur catégorie, tout simplement. C'est là, d'ailleurs, où Tesla se démarque un peu, parce que le constructeur n'a pas eu à se casser la tête et essayer de respecter une espèce d'héritage qui lui viendrait des véhicules à moteur thermique, là. Et ça, ben, ça paraît un peu dans l'arrière. On a comme un peu voulu faire comme si c'était une voiture essence, puis ça, c'est pas un avantage. Il y a un autre problème à bord de l'arrière, c'est la combinaison de l'écran central plus petit que la moyenne et des surfaces boisées tactiles à peu près invisibles où on voit pas vraiment très bien les icônes des commandes qu'on essaie d'activer. Ça prend un doigté presque magistral. En tout cas, il faut être un méchant bon pianiste pour...
En fait, il faut pratiquement y aller d'instinct, c'est-à-dire qu'il faut apprendre comment l'utiliser puis savoir presque d'instinct où se trouvent les choses, parce qu'il faut constamment regarder l'écran, ce qui est un peu embarrassant.
Et même à l'extérieur de l'écran, les surfaces sont lisses et c'est seulement des petits affichages lumineux qui apparaissent. Et tu sais, souvent, on parle de courbe d'apprentissage. On essaie des véhicules assez souvent que ça nous prend toujours un peu de temps à s'habituer à où se trouvent les choses. Mais dans ce véhicule-là, c'est impossible de développer le réflexe ou le mécanisme parce qu'il n'y a pas de point de référence physique nulle part.
Non.
Et même quand il fait très soleil, on ne voit pas les icônes à cause que la lumière est trop intense.
Oui, ça aussi, c'est un problème, effectivement.
Bref, on perd beaucoup en utilité ce qu'on gagne en esthétisme parce que sinon, je veux dire, c'est une voiture extrême. Tu sais, l'Ariya, c'est un beau véhicule de l'extérieur et de l'intérieur. Et comme son prix de détail est relativement peu élevé, ben les gens qui aiment les belles choses un peu moins pratiques, mettons, devraient aimer ce véhicule-là. Mais pour les autres, on suggère d'attendre un peu. Là. Nissan vient d'annoncer un plan d'électrification qui va nous apporter comme 30 nouveaux modèles en 3 ans. J'imagine qu'on va prendre des
pas tout au Canada, il faut le préciser. Il y en a à peu près 7 qui vont venir ici.
Mais au volume, on va en avoir certainement un ou deux qui vont être le fun et qui vont peut-être aussi remplacer ou en tout cas rendre l'offre de Nissan plus intéressante.
Puis Nissan, ils n'ont plus le choix. Là, parce que Nissan, là, depuis, puis je l'ai répété souvent, là, mais c'est encore vrai, depuis le coup d'État contre Carlos Ghosn, on est en chute libre là, depuis ce temps-là.
Il y a un historique, ça, chez Nissan, de toujours être au bord du gouffre, mais de s'en sortir. Oui, et là,
c'est parce que là, être trop longtemps au bord du gouffre, on finit par tomber.
Exactement.
Là, à un moment donné, il va falloir qu'il se rattrape, parce que le reste de l'industrie automobile, elle, n'a pas arrêté.
Non.
Puis je l'ai toujours dit, en automobile, l'immobilisme, c'est la pire des décisions à prendre.
Reculer, ben oui.
Si on n'avance pas, on recule en automobile, et si on est immobile, on recule aussi. Ouais. Donc, faut avancer. Tout est dans l'ordre de comment avancer, combien on investit pour avancer, et il faut, c'est pas pour rien que l'industrie automobile a des futurologues, j'invente pas ça, là, c'est vrai. Il y a des gens dont qui sont payés pour voir comment va se comporter le marché dans 5 ans, dans 10 ans, parce qu'on doit créer des produits à l'avance. On avait des idées sous Carlos Ghosn qui ont été abandonnées, qui ont été mises de côté parce qu'il y a d'autres gens qui pensaient pas comme lui, qui ont repris la compagnie. Moi, le e-Force, là, j'ai vu ça dans des présentations il y a 6 ans chez Nissan. On attend encore ça ici pour des modèles hybrides, un peu dans le style de la Volt. Là, on voit en ce moment que les modèles hybrides branchables avec une bonne autonomie commencent à gagner, regagner la cote de certaines personnes.
Il y a un intérêt, ben oui.
Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que, bon... C'est tout ça. Parce que on ne peut pas réagir, parce que les compagnies automobiles, c'est beaucoup trop gros. On ne peut pas réagir instantanément en disant, hey, la semaine prochaine, ça prendra ça.
De retirer un véhicule pour le remplacer, c'est
non,
c'est,
ben,
c'est
ça.
Sous, là,
il faut faire ça des générations d'avance. Mm-hmm. Et c'est des gens qui regardent le marché, qui sont capables de l'examiner. Mais là, on a brisé l'accord du côté de chez Nissan. Et on est à retravailler sur une nouvelle orientation, mais c'est d'autres gens qui ont pris ça, qui n'avaient pas les mêmes idées que Carlos Ghosn, qui vont amener une pédagogie, une approche qui va être différente. Et ça, ça prend du temps avant de faire accepter ça.
Mm-hmm.
Alors, j'ai hâte de voir, parce que le temps commence à manquer. Il y a Infiniti, là, qu'on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça.
Ça, c'est un autre, un autre panier
Nissan,
de
fer. Nissan peut s'en sortir parce que Nissan, universellement, est beaucoup plus important, plus gros, touche à plus de marchés. Mais Infiniti, c'est un petit marché. On ne touche pas à grand monde. On est dans le véhicule de luxe. Et on le sait, le véhicule de luxe, la démarcation entre les généralistes et les marchands de luxe commence à être de plus en plus mince,
surtout, avec l'électrique.
Surtout dans l'électrique, voilà. Effectivement. Donc, ça va être intéressant de voir de quel côté on va s'en aller avec tout ça. Mais disons que les gestes qu'on va poser vont être lourds de conséquences et il faut poser les bons. Et ça, c'est extrêmement important.
C'était le fun de voir Nissan proposer initialement, il y a 6 ans, une Ariya avec une plaque de recharge par induction sans fil et une conduite autonome.
C'était novateur.
De véhicule
à
véhicule qui se communiquait. Bref, il y avait vraiment des belles innovations, mais
exact.
Là, clairement, on a rétro-pédalé.
On est un petit peu passé à côté de la traque. Et comme le temps a passé, qu'on n'a rien amené de nouveau, ben là, on est en retard.
Exactement.
Ça revient à ce que je disais, si on n'avance pas, on recule. Moi, j'étais dans un véhicule que j'ai... Je suis revenu à la simplicité volontaire. On pourrait appeler ça comme ça. 23 595 $ prix de base du Jetta manuel 6 rapports.
Ça, c'est dans le top 5 des plus abordables dans le marché.
Pas mal certain. C'est un beau format. Moi, j'ai eu une Jetta, moi, en 1989. C'est la 7e génération de Jetta en ce moment qu'on a sur le marché. Ça a commencé en 1979. Rappelle-toi, les premières Jetta, t'as des boîtes de Kleenex. Là. C'était très carré, pas très beau, mais ça faisait le travail.
Ben, il y avait un certain
style. Je dirais qu'on a transporté cette idéologie-là à aujourd'hui. Il y avait la base. Il y avait fenêtre électrique, il y avait l'air climatisé, il y a un petit écran, il n'est pas grand, mais tout est là. On a Apple CarPlay, Android Auto avec le fil, il n'est pas sans fil, mais bon, tu mets le fil et ça marche très bien. On a un moteur 1.5 litres qui fait quand même 158 chevaux, 184 livres pieds de coupe, ça fonctionne très bien. Évidemment, les vitesses sont assez longues, mais les Allemands ont des bonnes boîtes de vitesse. Mm-hmm. Les vitesses passent facilement. Le confort est bon, il y a de la place en masse derrière, il y a un coffre immense. Donc, dans un monde où on n'arrive absolument plus à acheter rien en bas de 40-45 000, d'avoir une auto avec le transport, la préparation, sans les taxes, qui est autour de 26 000...
Et qui n'est pas une micro-voiture,
c'est fort intéressant. Moi, honnêtement, je ne suis pas un grand amateur de VUS. J'irais dans un véhicule comme ça bien longtemps avant n'importe quel VUS. Puis c'est drôle parce que j'ai un A4, ma femme a une A4. Là. Mm-hmm. Et bon, en termes de format, on est pas mal à la même place. Évidemment, il y a plus d'affaires dans la A4. Mais tu sais, si on prend là train roulant pour train roulant, puis on n'a pas de problème à suivre le trafic sur l'autoroute, j'ai fait du 5,7 litres au 100 km sur l'autoroute, là. Je suis allé...
Sans tricher, on connaît vos sans,
oui, oui, 5,7, oui, puis c'est pas un diesel. Fait non, que, c'est ça. On peut peut-être se fier dessus, lui. Mais les résultats sont très probants. En ville, du 7,7, 7,8 à peu près. Mais j'ai fait plus de 580 km sur un plein.
Wow.
Parce que je suis allé deux fois à Sherbrooke sur le même plein, plus tourner autour de Montréal, revenir. Donc, je me suis promené pas mal. Et toujours le fun. Les sièges, bon, manuels, mais quand je vous parle de simplicité volontaire, c'est ça, là. Tu sais, par rapport au véhicule dernier cri, bon, ben l'écran, il va être trop petit. Certains véhicules vont offrir plus de technologie. Il y a moins d'aide électronique à la conduite. J'en veux pas, moi, d'aide électronique à la conduite.
Il y a beaucoup de gens qui préfèrent ne pas l'utiliser.
Moi, là, je conduis encore comme j'ai appris à conduire en regardant des deux côtés avant d'aller quelque part. Je stationne...
En arrière pour la marche arrière.
Voilà, je stationne en parallèle en regardant de chaque côté avec les yeux. C'est la base de ce qu'il y a dans un véhicule. Il n'y en a plus beaucoup de ça. Mm-hmm. On en a de moins en moins. Et franchement, bon, évidemment, le véhicule est relativement neuf, mais la fiabilité sur ces modèles-là est rendue tout à fait correcte. La boîte manuelle va très bien. Si vous voulez pas de la manuelle, il y a une automatique pour un petit peu plus cher. Mais l'ambiance est tout à fait correcte. Évidemment, on n'est pas dans une ambiance de luxe. C'est des sièges en tissu. La finition est assez de base, il y a pas mal de plastique, c'est assez foncé, mais ça, c'est typique de beaucoup de produits Volkswagen. Mm-hmm. C'est des produits... puis vous avez deux prises USB-C, donc c'est les prises les plus récentes qui sont campées là, en bas de la console, en bas de la radio. Donc, vous pouvez brancher vous et le passager à l'avant des téléphones, si vous voulez. L'essentiel des dispositifs de sécurité est là. Bon, il manque un capteur d'angle mort, qu'on pourrait peut-être avoir. Il n'y a pas de siège chauffant. Mais quand je vous dis, là, on a la base et l'essentiel, tout est là. C'est sûr que le style n'est pas... bon, le mien était gris en plus. Là. Ça a l'air un petit peu d'une voiture de location, là, on va se le dire. Mm-hmm. Si vous voulez avoir un petit peu plus de fun, mais évidemment, pas au même prix, la Jetta GLI, qui est un moteur 2 litres, qui, lui, ouais, va avoir des sièges avec semi-cuir, plus, je dirais, plus mieux sculpté, vous avez plus d'aide à la conduite électronique, plus de bebelles, mais évidemment, le prix n'est pas le même. Moi, je voulais essayer justement la base pour voir ce qu'on retirait de ce véhicule-là. L'étagement des vitesses est un petit peu long. J'avais une critique à faire sur les changements de rapport, mais cela dit, les rapports passent très bien. Puis on installe moi j'avais un régulateur de vitesse à ce prix-là là, qu'on met, pouf, puis Vaux, les Allemands, c'est la beauté. Le régulateur de vitesse, tu le mets à vitesse, tu pèses sur le petit bouton qui enclenche plus, c'est réglé. Mm-hmm. Y a des Japonais, là, t'as besoin d'aller dans le manuel du propriétaire pour voir comment on a
pas. Ah, non, non, ça,
c'est,
oui.
C'est écoute, là. Ouais, hey, oui. Moi, quand j'arrive pas en trois opérations, A, B, C, à mettre le régulateur de vitesse, c'est parce que c'est trop compliqué. Mm-hmm. Si on est capable de le faire chez plusieurs compagnies, il y en a qui ont ce que j'appelle le syndrome de la sécurité avancée, là, mm-hmm, que, ah ben là, si tu fais ça, tu pourrais... Non, mais regarde, personne ne le fait, là. Puis s'il y en a un, ben c'est parce que c'est un pas d'allure, puis tu fais pas une réglementation pour un pas d'allure, tu sais. Donc, il y a quoi de comparable à ça? À ce prix-là, honnêtement, rien.
Dans ce format-là, en plus,
il n'y a plus de petites voitures. Puis vous allez avoir, tu sais, comme une Sentra, bon, qui pourrait être comparable,
ouais,
qui est dans ces prix-là, mais qui n'est pas aussi le fun que ça à utiliser. Il y a le côté souple, sans être mou, qui est intéressant. L'insonorisation est tout à fait correcte. Un petit agacement, il y avait des bruits de plastique probablement mal insérés ou mal ajustés. C'est arrivé deux, trois fois dans la semaine. Là. Tu pars, puis il y a une vibration qui se situe juste au niveau de la console centrale.
Ah oui.
Qui te... Puis ça dure 3-4 minutes. Une autre fois, ça a duré 10 minutes. D'un coup, ça part. La fois d'après, ça ne le fait pas. Fait qu'il y a certains ajustements qui pourraient être travaillés. Mais franchement, pour 24 000 piastres plus à peu près 2 000 piastres de transport préparation.
C'est ça ou une Corolla à CVT? Donc,
Oui. le choix est facile.
Alors voilà.
le choix est facile et la boîte, le plan B, mm-hmm. c'est pas une boîte CVT, c'est une boîte automatique. Donc, avec dans les deux cas, ouais. vous avez quelque chose qui est extrêmement intéressant. Le positionnement est intelligent. Il y a une clientèle pour ça. Je pense que pour les gens qui aiment ça, c'est spacieux. L'équipement est très honnête pour le prix que vous avez payé. Le niveau sonore est très bon. On se sentirait dans une voiture un peu plus luxueuse. C'est un peu austère, mais je suis prêt à endurer ça à ce prix-là. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, les deux pouces en l'air, ça va extrêmement voilà. bien. Mm-hmm. Ben voilà, c'est tout pour la semaine. Merci à Gino Desrosiers de la Société de l'assurance automobile du Québec. Merci à Jean-Christophe Ouellet derrière la console. Alain, merci.
Merci
et nous,
Benoît.
On vous donne rendez-vous pour une autre émission la semaine prochaine. Salut.
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.